Orient Hebdo, Éric Bataillon.
En juin dernier, la rédaction de RFI avait cherché à remonter la filière du Captagon, cette amphétamine prescrite à l'origine pour calmer l'hyperactivité et la narcolepsie, mais devenue aujourd'hui la cocaïne du pauvre, une drogue très prisée de la jeunesse saoudienne et au-delà dans tout le Moyen-Orient. À la faveur de la guerre civile, la Syrie est devenue un centre de production de diverses drogues, dont le Captagon. Qui fabrique ? Qui consomme ? Qui profite de son commerce ? Nicolas Falaise, Nicolas Feldman et Nicolas Kérodran avaient mené l'enquête et proposé une série de reportages diffusés sur l'antenne de RFI et sur notre site RFI.fr. Orient Hebdo s'en était fait l'écho et rediffuse ce samedi l'entretien avec les trois journalistes. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et Monde Arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire. Nous suivons donc la piste du Captagon. Captagon Connexion, c'est le titre de la série. Et pour cela, nous avons avec nous en studio Nicolas Falaise. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et depuis Dubaï, Nicolas Kérodran. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eric.
Un mot d'abord de ce Captagon, de quoi s'agit-il et quel est le problème avec cette substance, Nicolas Falaise ?
Une petite pilule fabriquée artisanalement puisqu'il s'agit d'un produit illégal, d'une drogue. Alors le Captagon a une histoire, hein, son nom vient d'un médicament. La substance dont il s'agit, c'est l'amphétamine. Donc on parle là d'une drogue qui maintient éveillé, qui donne une sensation d'énergie, voire de puissance. Hein. Ce n'est pas du tout une drogue qui fait planer ou rêver ou avoir des hallucinations. Et donc c'est une drogue qui se vend assez peu cher dans les pays où elle est consommée et que l'on a vu exploser littéralement en termes de production, de trafic et de consommation ces dernières années, précisément au Moyen-Orient.
Alors justement, comme toute drogue, le Captagon, vous l'avez dit, est sujet à du trafic, à d'énormes bénéfices et à des conséquences sociales importantes, notamment sur le plan de la santé. Nicolas Feldman, quelle est l'ampleur du phénomène ?
Alors, nous, ce qui nous a poussé à nous intéresser à ce sujet, c'est vraiment la place qu'a pris ces dernières années cette petite pilule dans le Moyen-Orient. C'est à la fois devenu un sujet de santé publique, une priorité politique pour de nombreux États et aussi un objet de tension entre les États, un objet géopolitique. Aujourd'hui, le Captagon, c'est un trafic qui implique une multitude d'acteurs. On a des petits trafiquants, on a aussi des groupes armés qui sont structurés et aussi des États. On a notamment une source diplomatique qui nous parle de la Syrie, qui est perçue comme un État producteur et qui est qualifié par une source diplomatique occidentale de narco-État. Et puis, vous parliez d'énormes bénéfices. En mai, on a une étude très intéressante, assez fouillée, qui est sortie, publiée par Newsline Institute, c'est un think tank américain. Et il chiffre le trafic de Captagon au Moyen-Orient à 5 milliards de dollars pour l'année dernière. Et puis, partout dans la région, on voit que ce trafic est en hausse et ça s'illustre avec des saisies dans tous les pays de la région.
Et l'on imagine que cette enquête n'a pas été une partie de plaisir, Nicolas Kérodran.
Oui, ça n'a pas été un sujet facile sur lequel travailler, puisque le Captagon est un sujet tabou, une question sensible au Moyen-Orient et en particulier dans les pays du Golfe. Alors, lorsqu'il s'agit de parler des saisies qui sont d'ailleurs fréquentes aux frontières des pays du Golfe, les autorités sont plutôt enclines à communiquer là-dessus. Récemment, un officiel saoudien a d'ailleurs révélé que 600 millions de pilules de Captagon ont été saisies aux frontières de l'Arabie Saoudite au cours de ces 6 dernières années, plus de 190 millions uniquement l'année dernière. En revanche, lorsqu'il s'agit de parler de consommation à l'intérieur de ces pays du Golfe, eh bien le sujet est plus compliqué car il est difficile de trouver des statistiques officielles et aussi des interlocuteurs qui, même si on peut garantir l'anonymat à ces sources, refusent bien souvent de s'exprimer sur le sujet.
Trois journalistes pour suivre la piste du Captagon, c'est un luxe plutôt rare dans les rédactions. Nicolas Falaise, comment vous êtes-vous réparti les tâches ?
Alors, on a découvert avec Nicolas Feldman et Nicolas Kérodran que l'on commençait à s'intéresser au sujet et à le creuser au même moment. Donc, l'envie a été très très forte de travailler ensemble et nous avons été suivis par la rédaction en chef de RFI pour ce projet qui devait nous faire approcher de zones d'ombre, hein, puisqu'il s'agit d'une activité criminelle, hein, celle d'un trafic. Donc, il fallait évidemment s'approcher de la source et s'approcher de la consommation, Nicolas Kérodran. Audrin, qui est installé dans le Golfe, s'est rendu dans plusieurs pays de la région, notamment le Koweït, pour enquêter dans la zone dont il s'occupe et où il est installé. Nicolas Feldman est allé en Jordanie, à Amman et à la frontière syrienne. Personnellement, je me suis rendu au Liban, Beyrouth et la frontière syrienne. L'importance des frontières est évidente, hein. On parle d'un trafic. La question des frontières terrestres, mais aussi maritimes et aéroportuaires, est essentielle dès lors que l'on parle de ce trafic.
Alors, dans le premier épisode, on peut entendre aussi bien des consommateurs qu'un trafiquant. Nicolas Feldman, cela a-t-il été compliqué pour vous de les trouver ? Quel accueil vous ont-ils réservé ?
Alors, moi, donc, comme le disait Nicolas Feldman, j'étais à Amman notamment. Trouver des consommateurs à Amman, c'est pas quelque chose de difficile parce qu'il y a un aspect récréatif qui se démocratise. Le captagon, c'est une drogue qui circulait initialement beaucoup auprès des travailleurs, des conducteurs de poids lourds par exemple ou de taxis, et de plus en plus on voit que cette drogue a aussi un côté récréatif, donc on la retrouve dans des soirées. J'ai été surpris par exemple de voir des expatriés notamment qui me confiaient prendre du captagon. Donc l'accès à ces consommateurs n'est pas difficile. Ce qui est plus compliqué en revanche, c'est de les enregistrer au micro. Mais si on prend les précautions nécessaires, Nicolas Cairaudran en parlait dans le Golfe notamment, à savoir protéger les sources, là j'ai réussi à accéder sans trop de difficultés à ces consommateurs. Là où ça a été plus compliqué en revanche, c'est la question du dealer. On a dans le premier épisode un dealer, on a retranscrit ses propos, mais voilà, les conditions pour que lui nous parle ont été un peu délicates, mais au final il a accepté de nous décrire une partie de cette route, lui qui se trouve vraiment sur la route entre la frontière syrienne et Amman, là où il écoule notamment une partie des pilules.
Oui, on peut comprendre cette réserve de la part de ce trafiquant. Nicolas Cairaudran, quels ont été vos rapports avec les autorités locales lorsque vous avez enquêté, que ce soit d'ailleurs celle des États ou par exemple des autorités portuaires à Koweït ?
Alors ce rapport avec les autorités koweïtiennes, il a été absolument nécessaire, car c'est grâce aux liens que j'ai pu avoir directement, notamment avec le ministère des Affaires étrangères du Koweït, que nous avons pu obtenir un rendez-vous au port de Chouer, qui est le principal port commercial du Koweït. Lorsque j'ai décidé de me rendre au Koweït, j'ai écrit un mail au ministère des Affaires étrangères pour obtenir mon visa presse. Et dans ce mail, j'ai explicitement spécifié que je travaillais sur le captagon. Donc je pense que sans cette sorte de tampon d'une autorité officielle du Koweït, on aurait du mal à obtenir certains rendez-vous.
Avez-vous une idée de qui fabrique le captagon en masse et donc, Nicolas Falaise, à qui profite le trafic ?
Alors, c'est quelque chose qui se précise hein, en enquêtant, même si, encore une fois, on navigue ici dans des zones grises. Les rapports des Nations Unies et d'autres enquêtes non partisanes désignent la Syrie et le Liban comme principal pays où le captagon est produit. Ce que l'on entend également, c'est que le régime de Bachar el-Assad, dans un pays ruiné par une décennie de guerre, a eu besoin à un moment de se procurer des sources de financement nouvelles. Évidemment, on reste très très prudent hein, sur la nature de l'implication directe ou indirecte de différentes sphères du pouvoir ou des forces armées syriennes dans ce trafic. Reste que un faisceau de présomption important, mais aussi des accusations partisanes dans la région, désigne le régime de Bachar el-Assad comme acteur et bénéficiaire de ce trafic, de même que les alliés de la Syrie dans la région, que peuvent être le Hezbollah libanais ou d'autres groupes armés liés à la Syrie et à l'Iran. Donc on voit bien que ce trafic, il est né finalement sur les fractures politiques, géopolitiques de la région et très probablement était entretenu par les conséquences de la guerre en Syrie.
Toujours avec vous, Nicolas Falaise, dans l'épisode 3, vous posez la question des conséquences géopolitiques de ce trafic dans la région. Quelles sont ces conséquences et sur quoi vous basez-vous pour tirer ces conclusions ?
Alors, si le trafic de captagon a des origines géopolitiques, il a aussi des conséquences géopolitiques, effectivement. Celle qui est peut-être la plus visible, hein, c'est la décision de l'Arabie Saoudite, il y a quelques mois, de couper totalement son flux d'importation en provenance du Liban. L'Arabie Saoudite en a eu assez de trouver des millions de pilules de captagon dans les oranges ou les bananes ou les sachets de thé en provenance du Liban. Ce qui provoque à la fois un problème économique pour les producteurs libanais qui sont déjà dans une situation difficile dans leur pays et évidemment des tensions entre États qui ont tendance, on le voit, à s'accuser d'être ou à l'origine, ou complice, ou négligent par rapport à un trafic qui pose des questions de sécurité et aussi de santé publique dans les pays où une partie de la population consomme cette drogue.
Alors au sein même des États, la lutte contre cette drogue pose des questions de sécurité, de santé publique et même de justice. Qui faut-il pénaliser, des consommateurs ou des trafiquants? A-t-il été aisé pour vous d'obtenir des réponses, Nicolas Feldman?
Alors, du côté des autorités jordaniennes, en dépit de nombreuses demandes d'interview, ils n'ont jamais vraiment donné suite, que ce soit l'armée, qui est notamment chargée de contrôler le trafic à la frontière, ou la police, qui, elle, est en charge de la lutte contre le trafic de drogue. C'est pour ça qu'on s'est, moi en tout cas, je me suis orienté du côté des associations. Il y a une association qui est très intéressante, qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle la Jordan Anti-Drug Society, donc qui est chargée d'accompagner les consommateurs de drogue et qui a fait aussi un gros travail du côté du plaidoyer, qui essaye de changer la loi. Et son angle d'attaque, un de ses combats, c'est notamment de moins pénaliser le consommateur et davantage de porter l'effort sur les trafiquants. Ils ont obtenu une petite victoire il y a quelques mois, puisque les peines ont été renforcées pour les dealers, les trafiquants. On parle aujourd'hui de peines qui vont jusqu'à 10 ans de prison. En revanche, là, ce qu'ils aimeraient, c'est un meilleur accompagnement aujourd'hui pour les consommateurs, qu'on arrête de les soumettre soit à des amendes, soit à des peines de prison qui peuvent aller de 1 à 3 mois, mais davantage qu'on soit là pour les accompagner, pour les aider à sortir de cette dépendance qu'est le Captagon.
Nicolas Quérodrin, sur cette question judiciaire, si je peux dire, dans le Golfe, qu'en est-il ?
Alors, comme je le disais en introduction, la question de la consommation à l'intérieur des pays du Golfe, c'est une question sensible. Donc il est assez difficile d'obtenir des informations là-dessus. Néanmoins, on sait que les législations dans ces pays en matière de drogue sont extrêmement strictes, que ce soit d'ailleurs pour les consommateurs, mais aussi pour les trafiquants, qui, dans certains cas, encourent parfois la peine de mort.
Merci à tous les trois, Nicolas Falaise, Nicolas Quérodrin et Nicolas Feldman. Votre enquête Captagon Connexion, en 4 épisodes, est toujours disponible sur notre site RFI.fr. Yeah, nigga, I'm still fucking with you.
Orient Hebdo sur RFI. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour prendre connaissance des grands titres de la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Alexandre, la Coupe du Monde de football continue de faire la une de la presse arabe.
Oui, et le Mondial, c'est un exploit arabe signé par le Maroc. En tous les cas, les journaux célèbrent l'accession du Royaume maghrébin au 8e de finale à la tête de son groupe. Il salue aussi les performances de la Tunisie et de l'Arabie qui, même si elles quittent le championnat, partent avec panache après avoir battu des champions du monde, la France et l'Argentine. Une éditorialiste égyptienne rend hommage dans Al-Masridium au courage de l'équipe d'Iran qui a refusé de chanter l'hymne de la République islamique en solidarité avec ceux qui contestent le régime. Les journaux s'intéressent aussi à ce que certains qualifient de campagne hostile de la presse occidentale contre l'organisation du mondial par le Qatar. Alors que la plupart des journaux du reste du monde reconnaissent la réussite de l'organisation de la compétition, la presse occidentale, et je cite, « cherche à imposer ses valeurs immorales, contraires à la nature humaine, sans prendre en considération les us et coutumes des peuples arabo-musulmans », écrit un éditorialiste. Le championnat du monde a aussi suscité une polémique sur les pages des journaux entre fans de foot et religieux salafistes. Ces derniers estiment que la pratique du sport est bénéfique, mais son spectacle maléfique.
Michel Paul, un gouvernement en Israël serait bénéfique, évidemment, mais sa formation serait-elle actuellement un spectacle maléfique, même si les choses semblent progresser ?
Comme à son habitude, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre pressenti, prend son temps, Eric. Il a signé des accords avec les partis de l'aile droite de sa future coalition, les plus extrémistes, leur accordant des postes clés dans son gouvernement. Et cela entraîne de nombreuses réactions. Écoutez plutôt, un éditorialiste du Yediot Aharonot le proclame « Israël restera Israël, mais seulement de nom ». L'ancien chef d'état-major et actuel député de la nouvelle opposition, Gadi Eisenkot, se déclare inquiet pour le pays tel qu'il le connaissait. Ce titre aussi dans Haaretz, les États-Unis mettent en garde Israël. Toute mesure d'annexion remettra en question la coopération avec nous. Et les chroniqueurs de droite contre-attaquent. Dans Israël Hayom, un article d'opinion affirme que précisément les responsables du fiasco du gouvernement précédent sèment maintenant un vent de panique. Des critiques également sur la répartition des portefeuilles ministériels. Les vainqueurs se partagent le butin, font remarquer les commentateurs, avec 7 députés. Le parti du sionisme religieux se voit attribuer 7 postes importants. Le ministère des Finances notamment, qui sera exercé en rotation. 2 ans pour un ministre et 2 ans pour un autre. Dans Ma'ariv, on relève ce commentaire. Israël est en passe de devenir un autre pays obscurantiste au Proche-Orient, où les ayatollahs, les prêtres et les rabbins décide de l'ordre du jour.
Alexandre, du sport encore dans vos journaux, avec une polémique autour du marathon koweïtien.
Oui, et cette fois, c'est la commission de la morale qui a récemment été créée par le nouveau parlement koweïtien qui a provoqué la controverse. La commission a réclamé et obtenu du ministère de l'Intérieur l'annulation du marathon de Koweït prévu le 10 décembre sous prétexte qu'il rassemblait des coureurs hommes et femmes à peine vêtu, une publicité pour l'immoralité selon le courant salafiste qui, pour la presse koweïtienne, a gagné du terrain tant chez les sunnites que chez les chiites. Toutefois, la levée de boucliers dans la presse et les divers médias a obligé le gouvernement à annoncer que le marathon aura bien lieu.
Une sage décision. Michel, en bref, d'autres sujets qui font l'actualité dans vos journaux.
Ma'ariv cite le ministre de la Défense sortant, Benny Gantz, indique que l'Iran a conduit 16 attaques au cours des dernières années dans le Golfe et la Mer Morte. La guerre n'est pas une réalité distante, estime le ministre. Dans les journaux aussi, la libération et l'expulsion imminente de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri après 9 mois en détention administrative. Israël lui reproche notamment d'être membre du Front de libération de la Palestine, ce qu'il nie catégoriquement. Israël Hayom souligne que la guerre entre la Russie et l'Ukraine provoque les records du nombre d'immigrants en Israël, notamment de non-juifs, souligne le quotidien, à la plus forte distribution en Israël, et également beaucoup d'articles dans la presse israélienne sur les propos antisémites et pro-nazis de Kanye West, le rappeur américain.
Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine, Michel ?
Eh bien, c'est la photo d'Avi Maoz, le député unique du parti raciste, homophobe et misogyne Noam. Il dirigera une agence de l'identité juive et aura un droit de regard sur ce qui se passe dans tous les établissements scolaires en Israël.
Voilà qui promet. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission mise en onde et réalisée par Mathias Golshani, à retrouver sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, en pleine Coupe du Monde de football au Qatar et en raison de la retransmission du match des 8e de finale entre le Sénégal et l'Angleterre, nous rediffuserons l'entretien que nous avait accordé notre confrère de Radio France, Frédéric Mettezo, lors de la publication de son livre retraçant la vie de Berthe Badéi, juive de France, sauvée des nazis par des paysans savoyards et désormais guide à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah sur le mont Herzl en Israël. À demain donc, prenez soin de vous.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en x2, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet.